Tout Femmes, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans le magazine Tout Feu Tout Femme, nous abordons un thème un petit peu difficile, il s'agit de l'enfance maltraitée. Avec nous pour parler de ce sujet, Claudie Cusano, présidente de l'association L'Enfant Bleu, enfance maltraitée en Isère. Avec moi Valérie, et nous allons présenter donc cette association. Est-ce que vous pouvez nous faire, Madame Cusano, la genèse de cette association, depuis quand existe-t-elle?
Oui, eh bien L'Enfant Bleu, enfance maltraitée de l'Isère a été créée en 1996. Nous fêtons donc cette année nos 20 ans d'existence. Nous avons répondu à l'appel de la fondatrice Lorraine Russel à Paris, qui avait créé donc l'Enfant Bleu enfance maltraitée en 89. Elle a fait appel sur les ondes donc en 96 pour créer des enfants bleus dans les régions. C'est pourquoi nous avons répondu à son appel. Lorraine Russel était elle-même victime de maltraitance dans son enfance avec son frère, d'où le nom de l'enfant bleu, du bleu des coups, du bleu de l'âme, mais aussi du bleu du ciel et de l'espoir. Donc notre particularité, c'est que nous sommes tous associations à part entière dans chaque région. Nous ne sommes pas des antennes. Donc nous avons plusieurs enfants bleus dans la France, une à Lyon, à Toulouse, à Saint-Dié et à Maubeuge. Il y en avait d'autres, mais elles ont fermé car c'est très difficile pour des associations telles que la nôtre de perdurer. Donc, bien sûr, quand nous avons répondu à Lorraine, elle nous a dit, elle est venue à Grenoble, bien sûr, elle nous a dit, vous devez subvenir à vos besoins, vous n'aurez aucune aide de Paris. Donc, nous avons commencé par déposer nos statuts en préfecture. Et nous avons recherché un local, nous avons eu la chance donc d'être hébergés par la ville de Grenoble, un petit local, et puis nous avons bien sûr fait notre bonhomme de chemin d'année en année, et nous en sommes à 20 ans d'existence. Alors les objectifs de l'enfant bleu sont pour bien sûr aider l'enfance maltraitée, et à ce titre on mène toute action permettant d'aider l'enfant à travers l'accompagnement juridique et psychothérapique. Donc elle vient aussi en aide aux adultes qui ont subi des maltraitances dans leur enfance et qui viennent frapper aussi à notre porte pour être aidés psychologiquement, et nous en avons un certain nombre. Voilà. La mission aussi de l'association, c'est de prendre en charge le coût du traitement psychothérapique, puisqu'une psychologue, bien que diplômée d'État, spécialisée, clinicienne, n'est pas remboursée. Alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est important, parce que chaque fois qu'un événement dramatique se passe à la télé, qu'est-ce qu'on vous dit? Une cellule psychologique est mise en place pour les personnes traumatisées. Et qui plus traumatisé qu'un enfant battu et agressé sexuellement? Donc notre mission, c'est de prendre en charge ce coup, parce que les familles ont du mal à prendre en charge, parce que lorsque la maltraitance est dénoncée, la famille souvent s'isole donc de la personne qui a dénoncé la chose, et elle se retrouve complètement démunie, sachant que ça se passe dans tous les milieux, aussi bien les milieux défavorisés que les milieux favorisés, où les murs malheureusement sont plus épais et où l'enfant est encore plus muselé. Voilà, en gros.
Alors combien de bénévoles dans votre association?
Alors nous avons un certain nombre de bénévoles, ça change parce que c'est souvent des étudiants, futurs psychologues, donc elles restent un an, elles repartent, mais on a toujours un certain nombre, et sachant que pour être bénévole à l'enfant bleu, il faut donc remplir un dossier, motivation vécue, contrat de confidentialité, extrait de casier judiciaire, et maintenant on demande est-ce qu'il y a une formation de psychologue.
Quel est le profil des personnes qui s'engagent bénévolement dans votre association?
Souvent, on a des demandes, ça c'est récurrent, de personnes qui ont subi des maltraitances. Seulement, comme on leur dit, il faut qu'elles soient d'abord reconstruites. La plupart du temps, elles ne le sont pas. Donc en fait, on se rend compte qu'elles viennent nous demander parce qu'elles ont envie justement qu'on les aide d'abord à se reconstruire. Ben, c'est pas toujours évident quand on est devenu adulte d'aller frapper à la porte pour dire j'ai besoin d'être aidé. Donc on a plusieurs personnes justement qui sont en thérapie en ce moment. Et puis on a beaucoup, comme je vous dis, des étudiants, de futurs psychologues, ou futurs travailleurs sociaux, etc.
Donc c'est quand même bien ciblé au niveau de,
oui.
De la qualité de la personne, parce que une personne lambda peut pas vous demander de venir oui. participer à ce type de travail. Il faut vraiment avoir une orientation.
Voilà, une orientation. Par contre, si ce qu'on constate de plus en plus, ce qui m'interpelle beaucoup d'ailleurs, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont à la retraite ou pas, qui demandent à être bénévoles. Et lorsqu'on leur dit qu'elles ne verront pas les enfants, là, elles ne donnent pas suite. Parce qu'il faut savoir que chez nous, les enfants sont confiés tout de suite aux psychologues. Même moi, je ne les vois pas. Donc, pourquoi ils veulent voir les enfants? Alors, je leur dis, bah, écoutez, allez aux associations d'enfants malades, là, vous les verrez. Chez nous, notre éthique nous interdit de les faire voir et de les exposer dans les médias pour sensibiliser plus les gens à notre cause. C'est pour ça que c'est très difficile pour nous d'obtenir des dons, des personnes motivées pour nous aider financièrement, parce que nous aider pour prendre en compte, en charge le coût du traitement psychothérapeutique, c'est un peu vague pour les gens et ça ne les motive pas trop. Voilà.
Alors justement, vous parlez de financement. Quelles sont vos sources de financement?
Alors bien sûr, on est reconnu par le Conseil général hein, comme association d'aide aux victimes. On est cité dans leur plaquette qui est distribuée à tous les travailleurs sociaux en moins 65 000 exemplaires, aux médecins, etc., toutes les personnes qui s'occupent d'enfants. On a donc une subvention. Et on est maintenant reconnu aussi association bienfaitrice donc par la préfecture et par le Trésor, qui a été bénéfique aussi, puisque sachant que tout don est déductible des revenus grâce à ça. Et nous sommes, bien sûr, nous organisons des manifestations, comme la kermesse de l'enfant bleu tous les ans dans le parc du Riage. On a fait un dîner dansant dernièrement, et on a aussi des clubs-services qui nous aident.
Est-ce que c'est difficile de se faire financer quand on est une association de ce type-là, puisque c'est que ça la dérange quelque part, ce genre d'association?
Oui, 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 voilà, c'est très difficile parce que, comme je vous dis déjà, nous aider pour prendre en charge le coût du traitement psychothérapeutique, voilà, c'est pas palpable, voilà, déjà. Hein. Donc, ensuite, c'est vrai qu'en France, malheureusement, l'enfance maltraitée est tabou. Hein. C'est l'omerta, c'est la politique de l'autruche. Personne ne veut imaginer l'inimaginable. Ça n'arrive qu'aux autres. Et lorsque j'ai des parents protecteurs, bien sûr, c'est pas le parent maltraitant qui demande de l'aide. Et ils sont vraiment complètement choqués en disant « Mais jamais j'aurais cru que je serais là en train de vous demander de l'aide. »
Alors, justement, avant d'aborder le thème de l'alerte parentale, vous faites des séries d'informations auprès du personnel de la petite enfance, d'après ce que vous m'avez dit, sur les signes précurseurs déterminants de ces actes. C'est quoi exactement ces signes précurseurs? Et est-ce que vous étendez cette série d'informations dans des réunions de parents d'élèves? Comment est-ce que ça se passe?
Oui, alors, effectivement, on est depuis plusieurs années, sachant que nous, on se substitue à personne. Nous, on est dans un plus et on va si on nous demande, on s'impose à personne. Donc, on a constaté que depuis plusieurs années, le comité commune du Grésivaudan nous demande de venir faire des informations au personnel de la petite enfance. Parce que, justement, les signes précurseurs ne sont pas enseignés aux personnes qui seront en contact avec des enfants. Sachant qu'un enfant maltraité ne parle pas.
Bien sûr. Hein.
Il a honte, il culpabilise, on lui demande le secret. Et lorsqu'il est petit, il ne sait pas forcément que ce qu'on lui demande n'est pas normal. Donc tout ça fait que l'enfant ne parle pas, d'où le leitmotiv de notre affiche. Un enfant maltraité ne parle pas, parler pour lui. Mais il parle avec son corps. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout changement subi de comportement chez un enfant doit interpeller. Ça ne veut pas dire forcément qu'il subit des maltraitances, mais on doit se dire pourquoi tout d'un coup, il n'est plus comme avant. Par exemple, il était propre quand il est petit, il n'y est plus. Il a peur d'aller se coucher, il a peur de l'adulte, il était bon à l'école, il y a de la régression. Il ne parle plus, il a des cauchemars, enfin, c'est tous des signes qui sont cités. D'ailleurs, si les personnes veulent consulter notre Facebook Grenoble, Enfants Bleus Grenoble, tous ces signes sont cités sur notre Facebook.
Alors justement, pourquoi ne pas étendre ces séries d'informations dans les réunions de parents d'élèves, dans les lycées, dans les collèges ou dans d'autres structures pour alerter justement tout le monde sur ces difficultés à déceler des enfants maltraités?
Mais nous, on veut bien le faire, mais il faut qu'on nous le demande.
Et justement, alors l'éducation nationale, de ce côté-là, elle est absente?
Voilà. Ce qu'on préconise, bien sûr, c'est des informations, bien sûr, et des préventions dans les écoles, hein, pour apprendre aux enfants à dire non. On en a eu fait, bien sûr, ce sont des préventions qui sont agréées par le ministère de la Santé et de la Solidarité. On y va avec une psychologue, avec un juriste, et c'est fait dans les règles de l'art. Hein. Et on constate chaque fois qu'on décèle un enfant, hein, c'est sûr. Puisqu'à la récréation, lors de la pause, les psychologues sont là pour, disons, recevoir l'enfant qui a besoin de parler. Donc on dit qu'il y aurait un enfant par classe. Hein.
Quand même.
Sachant aussi que ce que je veux citer, c'est que bon, il y a des statistiques, mais que personne ne sait, c'est que 2 enfants par jour en France meurent de maltraitance. Oui, c'est bien en France. Souvent, on me fait répéter, mais qui cite ces statistiques? Vous les avez entendues? Non.
On les entend sur les violences faites aux femmes, mais pas sur les enfants.
Voilà, mais c'est ce que.
C'est tabou, hein.
C'est bien que vous le disiez, parce que pourquoi on ne parle pas des enfants? Il faut se poser la question. Voilà, ça dérange, c'est tabou. Et puis bon, les enfants, les politiques, quels qu'ils soient, hein, moi je fais pas de politique, mais c'est pas un sujet qui les interpelle vraiment.
Hein. C'est tabou et en plus, ça fait appel à toute une série de personnes qui interviennent dans la vie de l'enfant. Mmh. On est bien d'accord, on peut se retrouver dans la problématique des parents agresseurs, mais des voisins agresseurs, ou du tonton, ou du grand-père, ou etc. Les parents sont très souvent désemparés. Bien souvent, ils n'ont rien vu venir et évidemment, la culpabilité parentale, elle est insupportable à vivre. On se dit comment, quand on est parent, on se dit comment est-ce qu'on a pu faire pour ne rien voir. Alors, non seulement la vie de l'enfant est gâchée, hein, à partir de ce moment-là, quand on s'en rend compte, ça devient le poids d'une vie qui est très, très lourd à porter, aussi bien pour l'enfant que pour la famille, parce que l'entourage qui se rend compte qu'il a failli, ça doit être lourd. Alors, ça m'amène à vous poser une question. Comme il est difficile d'intervenir à titre préventif, parce qu'on voit bien que cela se passe souvent dans l'entourage immédiat de l'enfant et souvent par des personnes à qui les parents font toute confiance, comment faire en tant que parent pour ne pas mettre l'enfant en danger sans le savoir? Parce qu'on ne peut pas l'empêcher de vivre, d'aller chez ses copains, d'aller chez ses papis et mamies. Comment est-ce qu'on peut faire?
Eh bien, nous, ce qu'on conseille, c'est que... Nous, on se rend compte que les parents, maintenant, bien qu'on ait évolué dans tout la libération sexuelle et tout ça, que des parents n'osent pas parler du sujet délicat de comment apprendre à un enfant la sexualité. Hein. Donc, c'est pas difficile. Dès que l'enfant est en âge de comprendre qu'il a... Il comprend vite, un enfant, 2, 3 ans, même 3 ans.
Je voulais dire, qu'est-ce que vous appelez l'âge de comprendre?
Ben, un enfant, il évolue vite. Maintenant, à 3 ans, on peut lui parler avec des mots simples. Mm. Hein. On peut lui dire simplement, à un moment approprié, « Eh bien, tu sais, il y a des personnes qui aiment toucher le corps des enfants. Et ils n'ont pas le droit. Mm. » Si quelqu'un te demande, eh bien, tu dois vite le dire, surtout si on te demande le secret. Tout ce qui est sous ta petite culotte ou sous ton slip, ça t'appartient. Personne n'a eu le droit d'y toucher. Personne n'y va vous répondre. Personne, ni papa, ni maman. Personne, ça veut dire personne. C'est à toi. Et vous savez, moi, je l'ai fait avec mes petits-enfants. Ils ont pris ça très bien. Ils ont dit, ah ben oui, ben personne, voilà. Ton corps t'appartient. Personne n'a le droit de toucher. Et tu dois refuser les demandes qui te dérangent. Voilà, mais moi, je constate qu'il y a des parents qui n'osent pas parler de ça. C'est pas compliqué, pourtant. Les enfants prennent ça très bien. Hein. Faut pas employer des mots compliqués, bien sûr.
Mais justement, c'est peut-être, entre guillemets, une éducation qu'on a à faire auprès des parents. Et,
oui, tout à fait.
Et ça, c'est peut-être quelque chose, effectivement, qu'il faut développer, parce qu'on n'oublie pas non plus qu'on est dans un certain type d'éducation en général. Et en France, on ne parle pas forcément de tout ce qui touche à la sexualité si simplement que ça. On a quand même...
Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais bon, les enfants, ils voient des choses parfois...
qui sont tout aussi choquantes, oui.
À la télé ou sur des affiches et tout. Moi, je pense que c'est une maman ou peut très bien parler de ça à son enfant, qu'elle est lors du bain ou je sais pas. C'est quand même pas compliqué, hein. C'est pas compliqué.
Et puis surtout, je pense bien leur dire que si quelqu'un dit justement fait des actes qui sont répréhensibles et demande à l'enfant, mais surtout tu le dis à personne, de bien l'avertir aussi que là, il faut qu'il avertisse ses parents de ce qui se passe, quoi.
Surtout quand on te demande de garder le secret.
Mais ce qui peut être compliqué pour un enfant, c'est si ces attouchements sont faits par des personnes, le papa, la maman ou l'entourage. Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué.
Le problème, c'est que la majorité, ça se passe dans le milieu familial.
Et dans la réalité, en tant que parent, même si on vit ce genre de choses, si l'enfant vit ce genre de choses, l'enfant ne va pas forcément communiquer avec les parents pour le lui dire. Il va s'exprimer par des attitudes dont on a plus ou moins parlé tout à l'heure. Et je pense aussi qu'il y a une chose qui doit peut-être aussi éveiller les soupçons, c'est les dessins que les enfants font, qui sont généralement assez évocateurs. Hein. À partir de là, il y a un deuxième problème qui se pose. Les parents vont deviner. Souvent, c'est ça, hein, quand ça arrive à l'enfant, les parents devinent qu'il se passe quelque chose. Ils soupçonnent, ils commencent à faire leurs recherches, ils essaient d'en parler à des gens compétents. Et là, souvent, on se retrouve confronté au fait qu'on ne vous croit pas. Parce qu'il y a ça aussi, cette difficulté de pouvoir dire à quelqu'un qu'on pense que c'est arrivé à son enfant. On n'en est pas sûr, bien évidemment, qui peut le prouver. Ce n'est pas nous qui allons le prouver. Mais on a des suspicions. Un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui est dans ce domaine-là, souvent, en premier, il va mettre en doute ce que vous lui dites. L'entourage, pareil.
Bah, écoutez, nous, on a des appels de parents protecteurs. Mmh. Hein. Ils se sont rendus compte qu'il se passe quelque chose. Une maman ou un papa, on a des papas aussi. Hein.
Bien sûr.
Donc, ils nous appellent, on les reçoit. Moi, je ne demande pas d'amener l'enfant. Il y a un dossier à remplir. Les psychologues de l'association savent que, par exemple, entre 17 et 18 heures, il y a un rendez-vous à l'association. Donc, elles savent qu'elles doivent répondre, même si elles sont en entretien. On demande aux parents l'historique, en gros, de son histoire. Mais surtout, on lui demande s'il est d'accord que son enfant soit entendu, entre guillemets, par une des psychologues. Donc, s'il est d'accord, la psychologue donc va répondre et le parent va partir avec son rendez-vous. Il a un rendez-vous en urgence et il va aller voir la psychologue. Ce sont des psychologues qui sont spécialisés.
Chez vous ?
Chez nous.
Mais voilà, dans la vie courante, on ne va pas forcément...
Eh ben, à savoir qu'on cherche, on cherche à se renseigner, où il y aura des personnes comme ça. C'est quand même... c'est vrai que je constate souvent, les gens, ils viennent, ils ne connaissaient pas l'enfant bleu. Ça fait 20 ans qu'on existe. Hein. Bon. Donc, ils vont voir la psychologue et qui va recevoir l'enfant le nombre de fois suffisant pour évaluer sa parole. Un enfant, il ne peut pas monter un scénario qui va tenir lors de plusieurs entretiens. Donc, nous, notre mission, c'est d'évaluer cette parole, la valider et faire un signalement. Faire un signalement ne veut pas dire accuser. La psychologue va reporter le comportement de l'enfant, ce qu'il a dit. J'en ai encore envoyé deux la semaine dernière. Et on met, il semblerait que cet enfant subirait telle et telle maltraitance. On ne dit pas c'est le père, c'est la mère. Ça, c'est envoyé au procureur de la République qui va diligenter ou pas une enquête. Nous, notre mission s'arrête là, et juridique. Et après, nous, on met en place ce traitement psychothérapeutique pris en charge, donc la plupart du temps par l'enfant bleu. Et ensuite, s'il y a un rendez-vous à prendre avec l'avocat, à ce moment-là, le parent ira voir l'avocat.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une première pause musicale que vous avez choisie, qui s'appelle « Les remparts de l'indifférence », interprétée par Stéphane Petit. Alors, pourquoi ce choix ?
Eh bien, c'est un garçon, Stéphane Petit, extraordinaire, qui a voulu donc créer ce CD pour l'association, qui a été financé par le Casino d'Uriage, parce que nous, on n'a pas les moyens, justement, de faire des actions comme ça. Donc, la chanson est très belle, donc les gens pourront l'entendre. Et il pensait que lui, grâce à ce CD, on pourrait le vendre et bien sûr avoir des fonds, mais malheureusement, c'est pas des CD que les gens achètent, malheureusement.
Alors on écoute tout de suite les Remparts de l'indifférence.
Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Des choses qu'on ne voit pas, un sourire qui cache un chagrin, un regard qui parle tout bas. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, écoutez l'appel de l'enfance. Il faut à tout prix qu'on balaye les remparts de l'indifférence. Dans le tumulte de la vie, on n'entend pas les SOS que nous lance à corps et à cri, les cœurs noyés par la détresse. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, écoutez l'appel de l'enfance. Il faut à tout prix combattre les remparts de l'indifférence. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, écoutez l'appel de l'enfant. De l'indifférence. Derrière des murs de solitude, il y a des enfants qui ont peur. Dans ce tourbillon d'habitude, on n'entend pas couler les pleurs. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, écoutez l'appel de l'enfant.
C'était Stéphane. C'était les Remparts de l'indifférence interprétés par Stéphane Petit. Donc, si vous souhaitez faire une bonne action, vous pouvez acheter ce CD qui sera au profit de l'Enfant Bleu. Justement, aujourd'hui, nous recevons Claudie Cusano, présidente de l'association L'Enfant Bleu, Enfance Maltraitée, et ce, dans le magazine Tout Feu, Tout Flamme, que nous animons avec Valérie.
Alors, Madame Cusano, vous serez d'accord avec moi, il faut réagir, et puis vite, dans ces cas-là, mais c'est pas si simple. Il faut s'adresser aux bonnes personnes. Alors, après un tel traumatisme, une fois qu'il est avéré par les parents, que doivent faire ceux-ci très rapidement, en dehors du fait qu'ils doivent s'adresser à un psychologue? Quelle démarche effectuer et auprès de qui?
Alors, déjà, un conseil, il faut pas questionner soi-même l'enfant.
Hein. Important à savoir, ça.
Oui, parce qu'on n'a pas les mots pour pouvoir recevoir la parole d'un enfant, il faut être formé. Ce qu'on demande, nous, à l'association, depuis des années, Paris, bien sûr, puisque Paris est reçu régulièrement au ministère, c'est que tout professionnel de l'enfance soit formé pour entendre cette parole. Donc, nous, ce qu'on leur conseille, c'est de ne pas le questionner, bon, de le croire, et de tout de suite interpeller un professionnel, hein, aller voir un psychologue, un pédopsychiatre, un psychiatre.
Donc en premier, c'est le psychologue, le pédopsychiatre ou en psychologie en tous les cas. Et après, en second lieu, c'est porter plainte si c'est avéré, etc.
Voilà.
C'est la deuxième.
Déposer plainte, bien sûr, si possible, en possession d'éléments extérieurs.
Hein. Donc il faut attendre d'avoir fait ce point avec le psychologue ou le pédopsychiatre.
Par exemple, nous, je prends l'exemple de l'association. Lorsque la psychologue a fait un signalement, bien sûr, au procureur de la République, il y aura ce plus, puisque l'avocat travaille en équipe pluridisciplinaire avec les psychologues. Hein. Donc, il y aura ce plus, voilà. Donc, c'est ce qu'on conseille, parce que questionner l'enfant, d'abord l'enfant, il a peur de parler à son parent, parce qu'il se rend compte, justement, que tout est bouleversé, et il culpabilise d'avoir causé ce bouleversement. Donc, il vaut mieux pas le questionner.
Voilà. Il y a pour faire ces démarches, il y a des délais, parce que souvent, on sait pas tout de suite que ça s'est passé. Bien souvent, on le sait après.
Ben, des délais, si vraiment c'est flagrant, bon, on peut surprendre des choses. Donc, à ce moment-là...
Dans le meilleur des cas, entre guillemets.
Voilà. Sachant que, bon, ben, ça se passe dans le secret, et que la personne qui agresse sexuellement fait en sorte qu'il n'y ait pas de témoin.
Voilà. Bien sûr.
Donc, d'où la difficulté pour l'enfant d'être cru, puisque bon, c'est parole contre parole. Hein. Il faudrait peut-être que presque ce soit l'enfant qui prouve que c'est arrivé. Donc, bien sûr, il y a des actions dans les agressions sexuelles qui ne laissent pas de traces. Hein. Bien que ça soit un viol quand même.
Alors, je vais peut-être entrer dans les détails. Vous appelez quoi
Les fellations, voilà. C'est un viol et malheureusement, il n'y a que la parole de l'enfant. Mais justement, un enfant, il décrit ça avec ses mots à lui. Hein. Nous, on a eu une petite fille de 5 ans, voilà, c'était le grand-père et ça a été... on a fait l'action qu'il fallait, ça a duré longtemps parce que c'est très long. Hein. Mais le grand-père, entre les psychologues, l'avocat et l'aide de l'association, parce qu'il faut bien savoir, quand les parents, bien sûr, se rendent compte, là, ils l'ont su par une réflexion de leur petite-fille. Hein. Je ne passerai pas dans les détails, mais bon, c'était flagrant, ça interpellait vraiment. Donc, moi, j'ai eu les parents dans mon bureau, c'était le papa de la maman, le père qui voulait assassiner son beau-père, enfin, vous voyez. Donc, il faut aussi faire en sorte de les calmer. Ils ont eu une thérapie de famille, tous les deux, parce que c'est pas évident non plus.
Hein. Bah, c'est violent pour des parents de voir qu'ils,
malheureusement,
sont le vouloir, ils ont été défaillants.
Ils s'étaient rendu compte de rien, hein, absolument rien. Donc, on a suivi cette petite fille pendant des années, les parents aussi, le procès est arrivé, et voilà, donc, j'ai entendu quand même un magistrat dire, qui avait le signalement sous les yeux d'une de mes psychologues, dire, un enfant, il ne peut pas inventer ça.
Ah, mais c'est clair.
Quand donc, vous voyez que... Bah oui, parce que... Et c'était malheureusement ce que je vous ai dit, là, hein, donc...
Mais ce qui est dramatique aussi dans toutes ces histoires, c'est que ça peut détruire complètement une famille, exploser un couple, exploser la cellule familiale, puisque là, quand il y a un acte d'une telle gravité, enfin, on ne peut plus vivre ensemble. Il faut vraiment passer par une psychothérapie effectivement familiale. Et encore, est-ce que les enfants ne peuvent pas s'en sortir indemnes, ni la famille, personne, quoi.
Le problème, c'est que justement, voilà, comme ça fait vraiment un chamboulement, enfin, c'est affreux, quoi, dans la famille. Alors, il y a des personnes qui préfèrent ne pas croire, en disant, c'est un mensonge, hein. Moi, j'ai eu, ben, il y a 3 jours, l'appel d'une jeune femme qui avait subi, dans son enfance, qui a parlé que plus tard. Eh ben, quand elle en a parlé, on l'a pas cru, sa maman l'a cru. Mais tout le reste, on dit que c'était elle qui avait tout inventé. Tout ça.
C'est très difficile pour les parents de ne pas être cru parce qu'on veut défendre son enfant, on veut le sauver d'un certain pas. Mmh. Et quand on n'est pas cru, ça devient à partir de là le parcours du combattant. Mmh. Et effectivement, on a beau être soudé, c'est un vrai combat là, qui arrive. Un combat contre la société, un combat contre la famille, un combat contre les juridictions. C'est lourd pour une famille.
C'est très, très difficile. Et pour la victime, souvent, il faut reconnaître que pas beaucoup d'affaires aboutissent. Hein.
Voilà. C'est grave d'entendre ça.
Oui.
Très, très grave.
Il faut des preuves. Le droit français, c'est un droit de preuve. Hein. Mmh. Donc, il faut des preuves dans le sens où on entend la justice. Et il faut pouvoir décrire le lieu, le jour, l'heure.
Oui, alors quand on a 3 ans, c'est un peu compliqué.
Voilà.
Hein.
Moi, j'ai eu un cas où une petite fille disait c'était après la classe des neiges. Et c'est passé, donc c'est un procès qui était aux assises. Et l'avocat, bien sûr, d'agresseur présumé, voulait absolument qu'il dise l'heure, le jour. Et donc ça, c'est très difficile pour la personne. Il y a eu un acquittement. Hein. Et l'enfant, la jeune fille, puis c'était une jeune fille, quand elle est retournée dans son village, tout le monde l'a traitée de menteuse. Donc maintenant, elle est gravement malade, elle est anorexique, la maman sous antidépresseur, voilà quoi. Ça fait des ravages. Les gens ne se rendent pas compte des ravages que ça fait.
Et intellectuellement, effectivement, les ravages, à mon avis, sont encore plus dévastateurs quand c'est dans la cellule familiale, parce que, par exemple, le grand-père, c'est quelqu'un qu'on estime protecteur, et donc là, on casse vraiment l'image du grand-père. Alors, est-ce que, par exemple, avec tous les scandales qu'on a eus autour de nous, y compris là dernièrement avec l'Église, est-ce que ça vous aide aussi à ce que les gens parlent plus, ou là, ça rentre dans le flot de l'actualité et ça change rien du tout?
Ce que vous pourrez constater, c'est que toutes ces affaires sont très médiatisées. Hein. Bon, alors ça fait tout un
buzz.
Des journaux, ça fait vendre les journaux, hein. Il faut dire ça aussi. Donc, nous, on était partie civile dans le procès de Villefontaine. Hein. Bon, malheureusement, la personne s'est suicidée. Vous entendez dire, tant mieux, ça fait... Bon, mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. C'est dramatique pour les victimes. Hein. C'est dramatique. Ils ne seront pas reconnus en tant que victimes. Et pour eux, ça va peser sur eux. Moi, j'ai eu un papa qui m'a dit, mais madame, vous rendez compte, j'ai amené ma fille au loup. Mmh. Hein. Ça, c'est pour s'en remettre de ça. Mais...
On ne s'en remet pas en tant que parent, ce n'est pas possible, de toute façon.
Ce n'est pas possible. Donc, c'est très médiatisé, mais ce qui se passe dans la famille, ce n'est pas médiatisé. Hein. Mmh. Nous, les procès qu'on a eus, ça n'a pas du tout été médiatisé, parce que bon, c'est devenu des affaires courantes, tout ça, pour les journalistes. Il préfère les grosses affaires, vous voyez, où...
C'est vrai qu'on Villefontaine, on a entendu beaucoup parler à un moment donné. Mmh. Ensuite, après, il y a eu le suicide de cette personne. Et puis finalement, je pense que, comme vous le dites, ça va tomber dans les oubliettes.
Ah bah oui.
Et les gens vont rester avec leurs blessures,
c'est
que ce
tombé.
Soit les enfants ou les parents. C'est-à-dire que jamais ils sauront pourquoi. Et jamais il y aura ce jugement qui leur aurait permis, peut-être, de faire leur deuil, comme on dit.
Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que... Souvent, les affaires n'aboutissent pas. Bon, c'est comme ça. Non-lieu, classé sans tuer. Non-lieu ne veut pas dire que c'est... Il n'y a pas eu... On n'a pas cru, mais il n'y a pas d'éléments suffisants. Donc, si, par exemple, la personne qui a agressé cet enfant récidivait avec un autre enfant et que ça serait prouvé, on pourrait revenir sur la première affaire. C'est déjà arrivé. Mais bon, le fait, par exemple, pour l'enfant de porter plainte, même si ça n'aboutit pas, du statut de coupable, il passe au statut de victime. Ah, mais j'ai porté plainte, donc c'est pas moi qui suis coupable. C'est important pour la reconstruction.
Oui, mais comme vous le disiez tout à l'heure, et moi c'est ça ce qui me choque le plus, c'est qu'il faut des preuves. Les preuves qu'on a en tant que parents, c'est pas des preuves matérielles. C'est des suppositions, parce que on fait pas de dessin, on sait bien comment ça se déroule. Oui. Donc on n'a pas de preuves matérielles, donc on peut pas donner ça à la juridiction. Oui. Donc ça veut dire qu'un enfant, s'il n'arrive pas à parler, parce qu'il y a aussi des enfants qui n'arrivent pas à parler, il l'évoque sur des dessins, où souvent ceux qui n'arrivent pas à parler arrivent à jeter leur flot de mal-être sur ces dessins, mais néanmoins la police, les juges, etc. ne prennent pas ça comme étant une preuve. Ce qui veut dire qu'il y a des dizaines d'enfants qui ne seront jamais crus qu'on laissera comme ça aller à volo et qui seront obligés de se reconstruire à 20 ans, 25 ans parce qu'ils réaliseront que ils ont besoin de se faire aider parce qu'ils ont été détruits. C'est grave quand même. Enfin,
c'est grave.
Que faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait, nous, citoyens lambda, essayer de faire pour faire changer les choses ?
Il faudrait d'abord au niveau national que ce fléau soit pris en considération déjà.
On nous dit toujours que c'est pris en considération, qu'on a compris cette fois-ci, qu'on fait ce qu'il faut pour.
Mais toutes les fois, on comprend, puis après, ça tombe au panier. Nous, il faudrait que ça soit pris en considération. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à prendre en considération. Mais là, c'est un véritable fléau, parce que justement, ce que vous disiez, c'est que l'enfant n'est pas cru, pour lui, il a toujours honte, il se sent coupable, et il va devenir un adolescent suicidaire, anorexique, boulimique, qui va finir dans les hôpitaux régulièrement, et ça coûte combien à la société, tout ça ? Après, ça va devenir un adulte qui n'arrive pas à se fixer, il a ce mal-être en lui qui fera peut-être qu'un jour, il aura... peut-être la force d'aller frapper à une porte pour un psychologue, mais tout le monde n'a pas la force. Hein? Et puis bon, c'est pas remboursé les psychologues. Qui c'est qui peut prendre en charge ? Pourquoi on donne un diplôme d'État à une personne ? Hein? Parce que diplôme d'État, ça veut dire quand même que c'est reconnu, et on ne la rembourse pas. Alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est important. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure.
Alors pourquoi pensez-vous que ce fléau, puisque je vais l'appeler comme ça, ne soit toujours pas reconnu par notre société, puisqu'on le disait tout à l'heure, on reconnaît enfin que les femmes subissent des violences, mais les enfants, ils subissent des violences là aussi, et on en parle effectivement que quand il y a des affaires qui sortent. Autrement, les enfants, on a quand même un devoir, nous, en tant qu'adultes, de les protéger.
Eh bien, disons que ce que je vous dis, il faut que ça soit au niveau national, que ça soit pris en considération. Qu'il y ait des préventions dans les écoles, que tout ça soit mis en place, qu'on prenne en considération justement que les enfants ont besoin justement d'être prévenus.
Et c'est quoi le frein ? Pourquoi on le fait pas ? Grand débat politique
Je pourrais dire une chose que je suis pas la seule à dire, parce que parfois je me dis t'es un peu trop, comment dirais-je ?
Réactive.
Oui. Eh bien, j'ai entendu de la bouche de Boris Cyrulnik, qui est quand même pas n'importe qui.
Oui.
Lors d'une grande conférence où on était tous réunis, dire la même chose que moi, c'est que les enfants, ils votent pas.
Ah oui, c'est l'horreur.
Mais ils votent un jour.
Un jour,
il faudrait pas oublier.
Oui, mais ils seront cassés.
Oui, justement, les conséquences sur l'enfant, elles sont énormes. C'est parce qu'en fait, un enfant, c'est l'innocence. Hein. Dans ce genre d'abus, on lui vole son enfance. Okay. Et ce petit être ne sera plus jamais comme avant. Et son rapport à l'adulte, il va être forcément brouillé. Et celui qu'il a aussi avec les autres enfants, il l'est brouillé. Donc on mesure là, à ce moment-là, on mesure le drame généré par ce crime, parce que moi j'appelle ça un crime. Dans telles conditions, quelles sont les conséquences pour l'enfant de tels abus ? On l'a vu un petit peu, mais dans la société, dans l'école, c'est compliqué parce qu'il n'agit pas avec les enfants de la même façon. Il peut avoir des actes sur les autres enfants. Il peut reproduire des actes qu'on a fait sur lui, sur d'autres enfants.
Et il peut reproduire, oui, parce que en reproduisant, il va quelque part avec des mots simples dire regardez ce qu'on m'a fait et on ne m'a pas cru. Voilà. Donc, dans les écoles, quand tu es les institutrices, c'est un des signes précurseurs, ça. Hein? Un enfant qui est violent à l'école. Donc, c'est au professionnel qui entoure ses enfants de se rendre compte que, à plusieurs reprises, cet enfant a eu des gestes ou. Qu'il a des violences qui ne sont pas normales, de se dire pourquoi il agit comme ça.
Alors ce que je vous propose, on va faire une deuxième pause musicale. Vous avez choisi Aux enfants oubliés, toujours interprété par Stéphane Petit.
Sur le grand chemin de la vie, on se construit un avenir. Mais comment pouvoir s'en sortir quand au départ on vit le pire ? L'enfance ressemble parfois à un banal chemin de croix. Et trop de gens sur cette terre commencent leur vie par l'enfer. Aux larmes bien nées, la chance n'atteint pas le nombre d'années à subir ici-bas. Les enfants martyrs, quel est leur avenir? Leur avenir. Dans le grand désert des barbares, même les mirages sont en retard. Il n'y a que des coups qui pleuvent, des larmes sombres comme un fleuve. Victime de jeux interdits, l'enfance meurt au ralenti. Et les mois passent sans répit, avec l'angoisse comme ennemi. Aux larmes bien nées, la chance n'atteint pas le nombre d'années à subir ici-bas. Les enfants martyrs, quel est leur avenir? Leur avenir.
C'était aux enfants oubliés. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre émission Tout Feu, Tout Femme. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Claudie Cusano, qui est présidente de l'association L'Enfant Bleu, Enfance Maltraitée. Je suis en compagnie de Valérie. Alors,
On parle de l'enfant victime depuis tout à l'heure, mais il y a ce que j'appellerais les victimes collatérales, les frères, les sœurs, les parents. Alors, un enfant qui a vécu ce genre de traumatisme, il peut donc le réitérer sur son entourage. Il n'est pas conscient de ce qui lui est arrivé, on est bien d'accord. Il ne sait pas que ce qu'on lui a fait, ça n'était pas bien. Quels sont les dégâts qu'il peut causer autour de lui et comment éviter ce genre de situation ?
Oui, alors les victimes collatérales, c'est ce qu'on appelle les victimes dites par ricochet dans le jargon juridique. Donc elles peuvent obtenir réparation dans la jurisprudence, mais ce sont essentiellement les parents. Hein. Alors dans 80% des cas, l'agresseur a été lui-même victime. Hein. Donc pour lui, la loi a été ignorée, alors la violence est considérée comme un droit. Inconsciemment, elle est vécue comme légitime. Et quand d'autres méthodes ne sont pas élaborées, la violence devient le moyen d'exprimer, par le passage à l'acte, le mal que l'agresseur a lui-même subi. Donc, tout se déroule comme s'il disait, en maltraitant, regardez, comme j'ai dit tout à l'heure, le mal qu'on m'a fait. Voilà.
Oui, mais nous, parents, quand on voit nos enfants reproduire des actes sur d'autres enfants, quand à l'école, la maîtresse se rend compte que l'enfant agit aussi sur d'autres enfants, sur des gestes qui ne sont pas, a priori, des gestes d'enfant, la réaction de tout à chacun, c'est de lui dire « c'est pas bien de faire ça ». En fait, du coup, on devient accusateur et on se met en colère face à lui. Mmh. C'est pas du tout la bonne attitude. Mais comment faire? Comment est-ce que on peut gérer tout ça?
C'est ce que je vous dis. C'est un signe précurseur et qui ne sont pas connus. Voilà. Quand un enfant fait des choses comme ça, c'est qu'il a sûrement subi lui-même. Et c'est pas en le grondant, en lui disant faut pas faire ça. Il faut justement tout de suite être interpellé. Donc. Hein, et se dire pourquoi il fait ça et voir un professionnel qui pourrait creuser entre guillemets la question.
D'où l'intérêt aussi de dire aux instituteurs, institutrices, professeurs des écoles, soyez en alerte quand vous voyez des choses
qui sont non conventionnelles, qui interpellent.
Prévenez les parents.
Voilà, c'est des signes précurseurs qui sont bien notés sur notre liste. Quand un enfant devient violent envers un autre, il faut tout de suite se poser la question. Ou qu'il a des gestes sexuels pas de son âge, quoi. Ou des propos qui feraient aussi... pourraient penser qu'il a vu un film pornographique, si c'est interdit. Il y a des tas de choses qui interpellent. Il ne faut pas se dire, en lui disant, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va l'aider, l'enfant.
Hein. Surtout qu'il y a des tas de personnes, en fait, qui gravitent autour de l'enfant, que ce soit les assistantes maternelles, qui, là aussi, peuvent être un bon relais quand il y a
tout
des problèmes.
Fait.
Parce que, des fois, il est peut-être plus facile pour un enfant d'aller se confier à sa nounou, à condition qu'elle ne soit pas maltraitante, parce que ça doit exister aussi.
Oui.
Il y a aussi, donc, dans les centres aérés, enfin, il y a plein de lieux où l'enfant éventuellement pourrait être diagnostiqué si on voulait se donner la peine de donner toutes les clés et toutes les mesures que, aux personnes qui s'occupent de nos enfants. Ben, quoi.
D'où l'utilité que nous intervenons auprès des personnels petite enfance et des femmes qui travaillent dans des crèches.
Aussi.
Elles ont les enfants de tout petit jusqu'à 3 ans. Et on y va donc avec une psychologue, on y va avec une juriste l'après-midi. Donc, on se rend compte que beaucoup de personnes ont connaissance de choses qu'elles trouvent pas normales, mais elles disent « Oui, mais on sait pas si c'est vrai. » Mais la juriste lui dit « C'est pas à vous dire si c'est vrai ou pas. » Vous avez constaté à plusieurs reprises, et en plus à plusieurs, puisqu'elles changent. Plusieurs, moi j'ai constaté que plusieurs avaient vu les mêmes choses sur un enfant, pas une fois. Hein, comme on leur dit, vous notez. Aujourd'hui, il y avait ça. La fois d'après, il y avait ça. Vous prenez un calepin pour l'enfant qui pose question. Et vous notez tout ça. Si ça se répète, vous devez faire un signalement à votre hiérarchie. Parce que imaginez que ça tourne mal pour cet enfant. Là, il y aura une enquête. Et on vous dira pourquoi vous ne l'avez pas signalé. Mais une fois qu'on a fini notre information, elles sont... super contente. Elle ne savait pas.
On leur donne des clés, on leur donne des outils de travail. Et c'est ce qui manque.
Pas.
Mais c'est quand même lamentable de se rendre compte que ces outils de travail ne sont pas donnés à la base. Parce que c'est quand même pas compliqué. C'est quand même pas compliqué de donner ces outils.
C'est
ça
pas
coûte
compliqué.
Pas cher.
Moi, vous voyez, j'ai beaucoup d'étudiantes, et ce qui me fait avoir de l'espoir pour l'avenir, des étudiantes en IUT, futurs travailleurs sociaux, futures infirmières, tout ce qui concerne les enfants. Qui vont avoir à la fin de l'année donc leur diplôme, hein, et qui viennent me trouver en me disant, mais voilà, elle demande des rendez-vous, si c'est moi ou si c'est une autre, parce que je me rends compte que quand je serai dans mon métier, je ne vais pas savoir reconnaître un enfant maltraité. Beaucoup d'étudiants qui viennent nous aider au kermesse, tout ça, se sensibilisent pour l'enfance maltraitée.
Oui, parce que la maltraitance, ce n'est pas que les coups.
Ah non! C'est maltraitance physique, psychologique, alors encore plus difficile à prouver, hein, et qui démolit carrément un enfant, hein, quand on lui répète toute la journée qu'il est nul, qu'on lui demande d'avoir des 20 sur 20 partout, etc., etc. Donc, cette jeunesse se rend compte qu'en fait, elles ne sont pas du tout prêtes à rentrer dans leur métier avec toutes ces connaissances.
Parce que ce n'est pas enseigné dans leur cursus totalement, celles qui vont être des travailleurs sociaux. C'est quand même hallucinant.
C'est fou, oui.
Ça pose question quand même, et ce serait bien que, bah,
si la, si
que les instances
se posent
les bonnes
questions. C'est
pas n'importe
qui nous fait venir, hein, communauté de communes du Grésivaudan. Et moi, j'avais rencontré leur grand directeur, je ne citerai pas le nom parce que c'est un politique, mais bon, il m'avait dit, oh là, j'avais été présentée à ce monsieur, il m'avait dit, oh, mais vous allez venir là-bas parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Et là, ça fait plusieurs années qu'on y va. Et si vous voyez comme elles sont contentes, les personnes très attentives et tout, quand on finit, elles nous remercient. Elles ne savent pas comment nous remercier. Et puis bon, on leur dit, vous ne savez pas, vous nous appelez. Voilà, on n'est pas la solution à tout. Hein. Je ne suis pas Madame Miracle, hein, pas du tout. Hein. Mais pourquoi ce n'est pas enseigné? Pourquoi les psychologues ne sont pas remboursés? Pourquoi?
C'est très curieux. On a l'impression qu'on met une chape de béton là-dessus.
Mais
et que ça reste bien couvert et que personne ne veut dire quoi que ce soit.
On
ne
veut pas imaginer l'inimaginable.
Mais alors, vous qui êtes dans cette association depuis 20 ans, rassurez-nous, depuis 20 ans, est-ce quand même il y a eu des améliorations?
Oui, ben je ne vais quand même pas vous faire peur. D'abord, il n'y a pas d'agresseurs dans tous les coins de rue, hein, faut pas exagérer. Hein. Mais dans toutes les familles non plus. Mais il faut savoir que ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Ce que je voudrais que les gens sachent, c'est que ça n'arrive pas que dans les familles défavorisées. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, être vigilant avec son enfant, le prévenir, comme j'ai dit tout à l'heure. Si tous les enfants tout petits étaient prévenus qu'un adulte n'a pas l'ordre de demander ça, parce qu'un enfant, ce n'est pas qu'il peut dire non à un adulte.
Oui, parce que pour lui, c'est l'autorité.
Voilà. Pour lui, c'est la
qui plus est,
sa
quand
référence.
C'est dans la famille.
Hein? D'ailleurs, la plus difficile au cours d'une thérapie pour un enfant, c'est de reprendre confiance à l'adulte. Étape la plus difficile pour lui. Voir en l'adulte une personne capable de le protéger. Ça va prendre des années pour l'enfant. Hein? Donc voilà, prévenir l'enfant, le papa ou la maman, c'est pas compliqué quand même.
Ça peut être...
Moi ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Que les parents n'osent pas dire à son enfant, tu sais, personne n'a le droit de te toucher, c'est pas compliqué.
On peut très bien le faire, que ça arrive tout de même. Et,
oui.
Parce que ça, c'est. On a beau dire à l'enfant, s'il y a quelqu'un de malsain
autour
de lui.
Il y a des gens qui savent, bien sûr, voilà. Qui sont manipulateurs. Ben,
voilà, bien après, sûr. L'exprimer pour l'enfant, ça reste quand même une difficulté.
Ah ben ça sera toujours difficile.
Voilà, et en fait, ça détruit aussi l'ensemble de la famille. Les parents, ça doit être sacrément culpabilisant que de se dire, zut, on a rien vu.
Bien sûr.
On a loupé ça et...
Nous, on est là pour aussi, la thérapie est là pour les déculpabiliser, hein, parce qu'ils ont besoin.
Vous y arrivez, vous croyez? Qu'on peut déculpabiliser des parents qui sont...
Bah, c'est long, c'est toujours pareil. Ouais. Moi, le cas de la petite fille dont je vous ai parlé, eh bien, ils sont déculpabilisés. C'est venu des amis de l'enfant bleu, hein, ils ne savent pas quoi faire pour venir aider, pour... Vous voyez? Sachant que quand même, la petite fille a toujours peur des garçons. Oui, à l'école.
Ça a une incidence directe sur le futur et la vie de l'enfant, quand même.
Sa maman me dit toujours, tu sais, elle a toujours pas peur, mais elle n'a pas envie d'avoir des copains garçons.
C'est grave tout ça. Alors, si on fait un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit, donc la première étape, c'est si on a le moindre doute, on fait un signalement. On envoie l'enfant chez un psychologue. C'est pas nous qui essayons de discuter avec l'enfant.
Non.
Il passe d'abord par un psychologue. Après, le psychologue...
Psychologue, pédopsychiatre,
etc. Une fois que tout
est professionnel.
Quand le fait est avéré et reconnu, après, il y a toute la partie aussi qui doit être très désagréable, qui est le partie juridique, avec un dépôt de plainte. Comment ça se passe, effectivement,
voilà,
tout ça
un
aussi.
Dépôt de plainte. Alors, bon, en premier lieu, moi, je conseille toujours d'aller voir un avocat pour savoir la marche à suivre. Donc... Nous, à l'association, on a un avocat qui explique aux personnes les tenants, les aboutissants. Mais si vraiment c'est flagrant, on est sûr, on va porter plainte. Hein. C'est sûr.
Et après, il y a toute la partie juridique, là aussi, qui doit être très
dure. Long.
Parce que, bon, je ne sais pas, je pense... Est-ce que l'enfant est amené à témoigner? Est amené... comment ça
dépend,
se passe? Parce qu'ils sont
dépend,
protégés, quand même, ces
dépend,
petits.
Ça dépend. Pas témoigner,
pas
non. Bah, et s'il est plus grand, ça dépend l'âge, hein. Voilà. D'accord. Ça dépend des juges qui estiment, le juge d'instruction qui estime si l'enfant peut être confronté, s'il est tout petit.
Et est-ce qu'ils sont bienveillants au moins?
Oui, les magistrats, oui, ça faut. On n'a pas à redire sur ça. Faut reconnaître que malheureusement, c'est toujours pareil. C'est tout ce qui est justice, les budgets sont pas assez importants pour qu'il y ait autant de personnes pour pouvoir s'occuper de tout ça. C'est pour ça que les affaires durent. On a des procès qui passent 2, 3, 4 ans après. Si c'est pas plus long.
Moi, je propose quelque chose. On retire quelques voitures qu'on met à disposition d'anciens présidents, d'anciens ministres. On retire quelques secrétaires, quelques gardes du corps qui sont pas forcément intéressants à avoir.
Et puis on
le met dans cette cause-là.
Il y a de quoi faire, là. C'est vrai.
Ça nous apporte beaucoup
de boulot. Ça, c'est un autre problème.
Oui, mais des solutions, il y en a. C'est ce que je veux dire, en fait. C'était le propos.
Non, mais ça, c'est vrai.
Voilà.
Moi, je peux pas
Quand on veut trouver de l'argent, on en trouve. Voilà.
Non, mais c'est clair. Mais c'est ce que je dis. Tout ce qui concerne le budget alloué au ministère de la Justice, souvent on critique. Mais bon, il faut savoir qu'ils sont surchargés.
Ah bah oui.
Il y a des dossiers qui s'empilent les uns sur les autres.
Alors nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Alors on aura dit beaucoup de choses. Alors ce qu'on encourage à faire à nos auditeurs, c'est effectivement, si par malheur ils avaient à se confronter à ce problème, c'est de vous contacter l'enfant bleu, l'enfance maltraitée.
Je vais quand même donner
tous nos numéros. Voilà, vous allez donner tous nos numéros, voilà, comment vous contacter.
Voilà. Alors les numéros à savoir, on n'est pas le seul, alors je vais en citer d'autres. Il y a le 119 Allo Enfance en danger, numéro gratuit national, où on peut donc déjà les renseigner. Il y a le CRIP, cellule de recueillement des informations préoccupantes du Conseil général. Le téléphone, c'est le 04 76 00 32 63. AIV, aide information victime, téléphone 04 76 46 27 37. SOS inceste, mais qui s'occupe que des adultes, c'est des groupes de parole. 04 76 47 90 93. L'enfant bleu enfance maltraitée, Grenoble-Isère, 04 76 86 16 69, avec un numéro d'urgence toujours à l'écoute, le 06 85 20 35 43. Le mail enfant.bleuisère@free.fr. Le Facebook Enfant Bleu Grenoble, où on raconte un peu tout ce qu'on fait, où il y a donc les signes précurseurs qui sont détaillés. Et le site internet, mais qui est commun à tous les enfants bleus, donc bon, on peut pianoter dessus pour savoir à peu près ce que tout le monde sait, puisqu'on travaille tous, ce que j'ai oublié de dire, qu'on travaille tous avec la même éthique et la même méthodologie, mais dans chaque région, chacun fait du mieux qu'il peut, pour avoir des dons, etc. Bon, Paris, eux, ils ont du salarié, moi j'en ai pas, vous voyez, donc c'est différent. Pour perdurer, mais on a la même éthique et la même méthodologie, et on se réunit une fois par an, les présidents à Paris. Voilà.
Alors, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces informations, nous, on va les relayer sur notre site internet et vous aurez toutes les informations. J'en profite aussi pour annoncer un événement qui est le dimanche 19 juin 2016 de 11h à 19h, qui est la grande kermesse de l'enfant bleu qui est au parc du Riage. Donc, si vous souhaitez faire allez-y. Et puis, c'est l'occasion, effectivement, de rencontrer toute l'équipe et puis de montrer que vous êtes solidaire avec cette cause qui est tout à fait et qu'il faut défendre pour nos enfants et. Et pour les parents,
pour les adultes de demain, voilà.
Sachant que c'est pas une journée triste, c'est une journée gaie, c'est une kermesse à la sienne, à l'ancienne, chamboule tout, pêche à la ligne pour les petits, château gonflable, et on a la buvette, les frites, les saucisses, les gâteaux faits maison que tous les amis nous apportent, voilà.
Eh bien, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On va se laisser alors là sur un morceau qui est aussi lourd.
Qui est je te laisse. C'est L'Aigle Noir de Barbara. Il était difficile de passer à côté de cette chanson, bien qu'elle soit, d'après ce que j'ai pu lire, controversée quant au thème. Ouais. Bon, on le prend comme on peut. En tous les cas, elle est.
En tout cas, c'est reconnu.
Elle est parlante.
Que Barbara a subi l'inceste, ça, c'est pas un secret pour personne.
Ça n'est pas un secret. Voilà. Et moi, je conclurai juste par une citation d'Alfred de Musset. « La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. »
Merci à tous.
Absolument.
Merci à tous.
Merci de nous avoir reçus.
beau jour ou peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit en mer de moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles et des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant. Semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle.
Femmes, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.